succède la radio et la télévision.
Voilà, merci beaucoup. C'est dans maintenant 40 secondes.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
J'ai pris.
On n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Tout est bidon.
C'est vrai qu'on a parfois tendance à caricaturer.
C'est pas vrai.
Si, et à tout prendre, je préfère l'excès de caricature à l'excès de censure.
Quand la protection de l'enfance coïncide avec la crise du personnel, il faut plus comprendre, il faut prier.
Tout est bidon.
Forum social, c'est quoi ? Un forum social est un espace de rencontre et d'échange organisé pour permettre des réflexions de fond, des débats d'idées, des échanges d'expériences, l'élaboration de projets d'action, la formulation de propositions. Par les temps qui courent, ça nous intéresse. Il s'adresse aux différents mouvements et entités de la société civile qui œuvrent pour un autre monde, centré sur l'être humain et non sur le profit. Le Forum Social Mondial se veut une alternative sociale au Forum Économique Mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. Ayant pour slogan « Un autre monde est possible », il est un espace ouvert qui permet à des organisations citoyennes du monde entier de se rencontrer pour traiter des principaux sujets de préoccupation de la société civile dans le contexte de la mondialisation et élaborer la transformation sociale du monde. Alors nous, ce soir, dans la grand-messe, on va pas parler du Forum Social Mondial, mais du Forum Social Local qui se déroule à Séné. Pour en parler, deux invités dans le studio de Plume FM, François Merciol.
Bonsoir, oui, François. Bonsoir.
François, on se demandait avec René, l'autre invité, si c'était bon de se tutoyer à la radio. On va tout dire aux éditeurs et auditrices de Plume FM. Parce que, voilà, on discute avant de commencer l'émission. Et c'est vrai que je me souviens qu'Anthony avait eu une formation il y a un ou deux ans avec des journalistes professionnels. Figurez-vous que nous n'en sommes pas là, tous autour de la table. Et cette journaliste professionnelle lui avait dit qu'en fait, privilégier le tutoiement entre un animateur et ses invités, c'était exclure l'auditeur et l'auditrice du débat.
C'est étrange.
Bizarre, hein.
Ben, ce que je te disais hors antenne.
Maintenant on y est.
Ça c'est bon. C'est que moi j'avais eu des retours d'auditeurs de Plume FM qui me disaient c'est super sympa ces émissions parce que effectivement on a l'impression de d'être autour de la table et de voir des gens qui n'ont pas une langue de bois, qui effectivement ils se connaissent avant et effectivement ils ne le cachent pas aussi à l'antenne. Donc je crois que c'est peut-être pas tellement le vouvoiement, le tutoiement, c'est plutôt de savoir à qui on s'adresse, quoi.
Alors François Merciol, tu es responsable syndical du FSU 56, tu es membre d'Attaque 56 et ce soir tu vas nous parler du Forum Social Local de Séné qui se déroule bientôt. Comme invité nous avons également René Guilherme, bonsoir René.
Bonsoir.
Il faut parler près du micro, René.
Bonsoir.
Seule contrainte à respecter ce soir, il n'y en a pas d'autre. René, toi tu es membre de l'association France-Palestine Solidarité.
Tout à fait.
Voilà. Autour de moi, Daniel, bien connu sur les ondes de Plume FM.
Bonsoir à vous, cher ami.
Un récidiviste.
Je respecterai le vouvoiement comme il se doit.
Daniel, Pascal. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Julia. On te tend le micro, Julia, pour saluer.
Bonsoir.
Et puis Anthony, bien évidemment, notre chef à tous, à la technique.
Bonsoir à tous.
Bon, on va donc parler du Forum Social Local. Et c'était pas possible de pas faire le rapport entre le forum Social Local qui se déroulera pas ce week-end, mais le week-end prochain, et le fameux Sommet Social qui a eu lieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de sommet social ? Est-ce qu'on peut parler de sommet antisocial ?
Ah, moi, je parlerais plus facilement de sommet antisocial. Aujourd'hui, enfin, on le voit, hein, y a la guerre, elle est au niveau des mots. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société de manipulation. Alors, on a tous entendu parler des histoires du genre 100% des gagnants ont tenté leur chance. On oublie de dire que 100% des perdants aussi, et ils sont vachement plus nombreux. Mais voilà, on va toujours mettre en avant ce qui fait plaisir. Et là, dans ce sommet dit social, de quoi on nous parle ? On nous parle de prendre des cotisations sociales qui vont payer nos retraites, nos congés de maladie, pour aller faire de la formation. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on allait à l'université, on faisait ses humanités, on apprenait à être un citoyen, et puis ensuite on allait dans une entreprise, et puis on était formé sur le poste, mais on était formé par l'entreprise. Et aujourd'hui, on a un système inverse où il faut absolument tout financé par la collectivité, mais alors, pour ce qui est effectivement du social, c'est-à-dire la retraite, etc., etc., ben, voilà, les gens vont s'asseoir dessus. Donc, je suis pas sûr que le mot social soit bien adapté à ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, comment tu peux expliquer que toi qui es un syndicaliste, comment tu peux expliquer la participation des syndicats à un sommet de pacotille comme celui-là?
De toute façon, ils seraient pas allés, on aurait dit, mais écoutez, vous claquez la porte, vous êtes contre le dialogue, donc, à un moment donné, les gens sont un peu obligés d'y aller pour écouter ce qui se passe, mais je suis pas sûr que... Enfin, on a vu les réactions aujourd'hui, ils sont pas vraiment satisfaits. Enfin, ça dépend. Hein. Tous les syndicats n'ont pas tous la même position, mais la plupart sont pas du tout satisfaits de ce qui s'est passé.
Ils sont obligés d'y participer.
Obligés, non, mais enfin voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé le tutoiement. Qu'est-ce que les gens auraient pensé s'ils n'y avaient pas participé. En fait, c'est un peu ça la complexité. Aujourd'hui, on est vraiment sur un mode de communication. Donc, il faut paraître, il faut donner son opinion, il faut participer à ce genre de choses, quoi. Mais bon, c'est pas forcément le syndicalisme qui a l'honneur aujourd'hui, enfin pour le Forum social. Pour ce Forum social, en fait, il y a plein de couleurs, donc j'ai pas envie non plus de monopoliser la parole sur un des aspects. Enfin, il y a plein de membres dans ce forum. Hein. Il y a effectivement des syndicats. Il y a aussi des partis politiques. On pourra en parler. Ça a été l'objet de nombreux débats chez nous pour savoir. Enfin, quand je dis chez nous, c'est au Forum social pour savoir s'ils devaient participer ou pas. Et puis, il y a vraiment des réseaux sociaux. Pour le coup, quand on parle de RESF, hein, qui défend les sans-papiers, ça c'est un réseau social. Quand on parle de la Ligue des droits de l'homme, ça aussi c'est du social. Enfin, on voit bien ce que ça veut dire. À contrario, quand j'entends parler que des réseaux d'exhibition, parce que je les appelle comme ça, où on va raconter sa vie, disent être des réseaux sociaux, bon, voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, la population détourne, et ça ils ont raison, ces réseaux d'exhibition pour en profiter, pour passer de l'information. Mais bon, là, nous, on est sur le Forum social. Je dirais que c'est l'interconnexion des réseaux sociaux du Morbihan, le Forum social local de Séné. Et alors, pourquoi Séné? Parce qu'on t'as fait une... Merci, j'ai tutoyé trop tard. C'est pas grave, allez, je reste comme ça.
Vas-y, va voir, l'assumer ton tutoiement.
Ouais, c'est pas bien. T'as fait une super introduction là sur le Forum mondial, qui est très bien. Enfin, c'est effectivement...
Je l'ai pris sur votre site.
Ah, c'est pour ça.
C'est du copier-coller.
Bon, j'allais te faire un compliment. et effectivement, c'est
le... Félicitations à François pour le texte, super.
Ouais. Je te renvoie le compliment.
Et comme j'ai pas beaucoup de mémoire, je l'ai pas reconnu. Voilà, en fait, les forums mondiaux, c'est une sorte d'éducation populaire. C'est d'essayer d'ouvrir les yeux, de démonter en fait ces manipulations. Et comme ils ont lieu un peu partout dans le monde, c'est un peu compliqué pour les gens aujourd'hui en particulier, où on fait attention à l'énergie, de dire vous allez tous aller à Porto Alegre. Oh, mince, comment on prend son billet d'avion? Enfin, c'est pas très durable, comme on dit. Et là, l'idée, c'est de dire plutôt que faire en un seul endroit dans le monde, eh bien on va essaimer en fait toutes ces réflexions, parce que la connaissance ne se réduit pas en quelques personnes dans le monde, mais en fait tout le monde est porteur de savoir. Et l'idée de ce forum, c'est de partager ces savoirs localement pour ensuite en faire part. Alors nous, on a un site sur lequel ensuite on met les conférences et discussions pour que tout le monde puisse en profiter.
Il y a eu un âge d'or, justement, tu parlais de l'éducation populaire, il y a certainement eu un âge d'or de l'éducation populaire, on a connu, enfin moi je les ai pas connus, mais il y a eu de nombreuses universités populaires, je crois que dans les années 50 il y avait 500 000 adhérents, qu'est-ce qui explique l'échec de ces universités populaires? Elles sont plus ou moins périclitées finalement, elles existent toujours.
Alors, elles existent toujours. Hein. Il y a différentes formes d'éducation populaire. Hein. Il y a l'université, l'université populaire. Enfin, ils n'ont pas tous le même objectif derrière. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'individualisme qui a gagné les gens. Alors, ils sont pris par des tas de choses. Hein. Boulot, métro, dodo. Hein, le métro à Séran, vous connaissez bien. Hein. et aujourd'hui, on est vraiment capté par. Il faut payer les retraites des maisons, etc. On est harassé de travail pour ceux qui en ont. Hein. Comment faire pour aider les autres? Déjà, on a du mal à s'aider soi-même. Et donc, le côté collectif, j'ai l'impression qu'il disparaît. Ça, c'est bien dommage. Ce qui est très curieux, parce que tu as commencé sur le syndicalisme, on a de moins en moins de gens qui vont dans un syndicat.
8% de syndiqués en France. Ouais. 8%.
Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui apparaître? Des mouvements comme les indignés. Ce qui est très curieux, c'est que finalement, les indignés, c'est un syndicat, quoi. C'est des gens qui se regroupent pour défendre leur intérêt. Et alors que des gens n'iraient pas dans un syndicat en disant « Ouais, c'est l'œil de Moscou, etc. » ou je sais pas quoi. Enfin, il y a une sorte de mainmise, une direction quelque part, au siège ou je sais pas quoi. Eh bien, ils vont aller dans ces mouvements un peu plus désordonnés en se disant « Bah là, je vais avoir voix au chapitre. » Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, localement, c'est comme ça que ça fonctionne un syndicat. C'est-à-dire que on n'a pas une entité à la tête qui dit il faut faire ça et ça. On a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent te voir, qui sont en souffrance, et puis qui disent moi je commence à avoir une maladie grave, mon employeur me dit je souris pas, on va me mettre à la porte, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et c'est localement que ça se règle. Donc l'idée de dire essayons de créer un peu de collectif là-dedans, ouvrons les yeux aux gens en disant oui, vous pouvez effectivement vous rencontrer autour d'une table et puis discuter, ça c'est un truc intéressant.
René, le forum social local,
oui.
Qu'est-ce que ça t'évoque?
Alors moi je voudrais peut-être rebondir un petit peu sur ce qu'a dit François par rapport à certains points. Je voudrais peut-être parler un petit peu de l'éducation populaire aussi, parce que c'est c'est un petit peu dépassé, mais en fait, c'est vrai que l'éducation populaire, ça a été quelque chose de fort dans les années, je sais pas, on va remonter aux années 70. Bon, ça correspondait à une époque aussi, hein, ça correspondait à une époque où il y avait en France à l'époque à peu près 140 associations, ce qu'on appelait les associations de jeunesse et éducation populaire. Il y avait à peu près 140 associations de jeunesse et éducation populaire à peu près dans les années 60-70. Bon, aujourd'hui, il en reste à peu près une soixantaine, un truc comme ça. La raison, c'est que... Enfin, une des raisons, c'est pas la raison, c'est une des raisons. Une des raisons, c'est d'abord le côté financier, parce que à l'époque, il y avait... ces associations vivaient avec quelques subventions, et les subventions, elles sont réduites comme une peau de chagrin. Bon, donc ça c'est une raison de la disparition de beaucoup de petites associations, donc qui avaient un rôle à jouer, en particulier au niveau des jeunes, parce que beaucoup de jeunes étaient dans des associations d'éducation populaire. Bien. Ensuite, il y a eu ce mouvement. Bon, on va pas jouer les anciens combattants, mais enfin, on va revenir peut-être à mai 68, par exemple, hein, dans ces années-là, où il y a eu un gros phénomène, à la fois rejet des grandes organisations, dont les jeunes en particulier, et à la fois besoin de se retrouver pour faire des choses ensemble, malgré tout. Et donc, à ce moment-là, il y a eu mise en place, un petit peu partout, de ce qu'on a appelé les universités populaires. Ça a été quelque chose d'assez fort, qui a un petit peu périclité après, parce que...
En quoi ça consistait?
Les universités populaires, c'était un petit peu, je sais pas comment on peut dire, mais enfin bon, un petit peu les précurseurs aussi des forums sociaux, puisque c'était des endroits où les gens se retrouvaient pour discuter un petit peu, refaire le monde aussi. C'était un petit peu ça quand même, quelque part.
Donc, on pensait déjà que le salut viendrait du peuple.
Oui, mais il y avait aussi tout un mouvement qui était des enseignants, hein, prof d'économie ou autre, ou sociologue aussi, qui étaient dans le rôle d'enseignant, mais qui en même temps avaient des messages à apporter parce que c'était leur boulot, hein, quelque part. Ils étaient bon. Donc on a trouvé comme ça beaucoup de gens qui sont venus dans ces universités populaires, qui étaient quand même très intéressantes parce que c'était à la fois des lieux où on pouvait s'instruire, apprendre des choses, des notions d'économie, etc., etc. Et en même temps, des endroits de débat, puisque c'était ouvert, très, très ouvert, très largement. Donc c'était quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, on a l'impression, je reçois quelques informations un petit peu de partout, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a de nouveau ce besoin qui réapparaît de refaire des universités populaires. Alors il en existe, hein, il en existe, ça reparaît un petit peu, on dirait. Donc ça veut dire que c'est quand même un phénomène qui est assez intéressant parce que les gens apparemment ressentent de nouveau le besoin de pas seulement de s'impliquer dans des actions de solidarité, etc., mais aussi de comprendre le système dans lequel ils vivent de manière à pouvoir aussi le transformer. C'est quelque part, je crois, un besoin qui est en train d'apparaître, et les forums sociaux sont quelque part un petit peu aussi sont acteurs aussi de ce phénomène quelque part.
Mais est-ce que c'est pas un peu lié à la conjoncture actuelle, c'est-à-dire une espèce de monde où la politique s'est complètement écroulée, où il y a plus aucun repère, et on n'a plus de chef, on n'a plus de tête, donc on est obligé de se démerder autrement? Parce que la politique depuis Sarko, même un petit peu avant, c'est à mon avis c'est complètement effondré, et les repères on les a plus, on est obligé de les chercher ailleurs.
Ouais, enfin, qu'est-ce qui s'est effondré? Ça, j'ai l'impression qu'il y a eu accaparement de discours, d'idées qu'on nous a mis dans la tête. Mais moi, j'y crois encore à la politique. Sinon, j'y serais pas en fait dans ces forums sociaux. Si j'imaginais pas qu'un autre monde était possible, moi, je sais pas. Moi, j'irais cultiver mes patates. Enfin, je sais pas. Je me retirerais complètement de la société. Or, aujourd'hui, à être dans ces groupes de réflexion, là, il y a prochainement le 25, là, à Séné, il va y avoir une réunion sur l'audit citoyen de la dette publique. En discutant, on se rend compte que non, effectivement, on nous a menti, mais on nous a complètement, mis dans la tête qu'il y avait un seul schéma possible. Or, des schémas existent, il y a d'autres façons d'envisager la politique, mais ils sont complètement trustés par deux grands partis qui nous font croire que c'est l'un ou l'autre, alors qu'il y a peut-être d'autres façons de faire.
Oui, il y a quand même un écroulement complet de la politique, même au niveau international, quoi. Quand on voit les États-Unis, les mensonges qui nous distillent depuis des décennies, quand on voit le gouvernement français qui prend la suite, quand on voit l'effondrement de l'Europe, de l'euro, etc., on a perdu tous ces repères. On est complètement perdu.
C'est là où les citoyens, ils n'ont plus la voix au chapitre, en fait. Ils sont, on est dans un système où on va désigner pour 5 ans, par exemple, une personne qui, elle, va être complètement à la main des marchés ou des choses comme ça, alors que la démocratie c'est pas ça. La démocratie c'est de dire à quelqu'un, je te donne pas un ticket pour 5 ans pour faire une politique qui m'intéresse pas. Ça serait de dire, au bout de 6 mois, attends, là il y a un truc qui va pas, non, je te renvoie. Là, aujourd'hui on est dans un système où on ne peut pas renvoyer les gens avant qu'ils aient fini leur mandat. Ça c'est une chose assez...
Plume FM, là, je suis au buffet de la gare et j'ai demandé de changer la radio parce qu'ils écoutaient une radio.
On revient à nous.
Alors ça, c'est notre censure à nous.
Ah oui, d'accord.
Sur un mode humoristique.
On sent bien qu'on était sur un sujet difficile.
Ouais, on a toujours peur d'être écouté par les renseignements généraux. Hein.
Là, c'est le cas. En fait, ils ont réussi à pirater. D'ailleurs, on a une coupure d'antenne en ce moment. On ne sait pas pourquoi.
Figure-toi qu'ils doivent être dans le coin. Mais en t'écoutant, François, faut-il encore aller voter alors?
Ah oui, non mais...
Et finalement, si jamais deux partis trustent, c'est vrai, finalement, le pouvoir depuis des années, des décennies maintenant, faut-il encore aller voter? Est-ce que c'est le pouvoir du citoyen d'aller voter, puisqu'on sait pertinemment que ça ne change plus les choses?
Eh bien, c'est ça qu'aujourd'hui on veut nous faire croire, et on veut nous inciter à faire un vote utile. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de nous dire, de toute façon, au deuxième tour, ça sera machin contre truc. Et donc, si vous voulez être sûr que il ne soit pas votre camp ne soit pas éliminé, ben il va falloir faire un vote utile. Mais voilà, la question, moi, je pense qu'elle se pose véritablement.
On a eu des fâcheux précédents. On a eu l'histoire Chirac où on a voté à 80% pour lui parce qu'il y avait Le Pen et parce que le premier tour.
Était
trop diffus, quoi. Et c'est vrai que les gens, ça leur fait peur. Même moi, je me pose la question, premier tour, est-ce que je vais me ventiler pour essayer de donner ma voix peut-être plus à des gens qui représentent plus mes convictions, l'écologie ou des trucs comme ça, ou est-ce que je vais pas prendre le risque de voir surgir la bête et puis
la bête immune, ah,
c'est ça, on est un peu coincé, on nous piège avec ça, quoi.
On nous piège. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que moi aussi, j'ai été dans cet état. Dans cet état-là. Et puis, après réflexion, je ferai plus ça.
En mai prochain?
Non, je voterai pas utile.
J'ai pris cette décision aussi et je dois pas être le seul.
Et je me dis, mais après tout, si on en arrive à ce constat, ben, que ça pète un jour. À un moment donné, on est en train de se dire, je veux garder. On nous a mis presque au bord de la noyade, c'est-à-dire on a la tête qui surnage un petit peu et on s'en dit mince, pourvu qu'on n'appuie pas sur la tête parce que là je vais carrément me noyer. Et qu'est-ce qui se passerait si vraiment on faisait pas de vote utile demain? C'est-à-dire que si demain on n'avait pas les deux grands partis là qu'on nous dit comme étant des grands partis ou qui ont des votes peut-être par défaut, parce que quand on regarde les sondages, qu'est-ce que vaut un sondage d'ailleurs? Mais quand on les regarde, c'est maximum un quart de la représentation, c'est-à-dire pas un quart des 60 millions de Français, hein, c'est un quart des gens qui sont en situation de vote déjà, donc c'est pas 60 millions. Et puis donc si à un moment donné on faisait pas de ce vote utile, on serait peut-être dans la rue et peut-être qu'on reprendrait effectivement en main la vraie politique.
Moi je pense pas, je suis pas tellement d'accord avec vous. Je pense que, mais moi aussi je suis partagé, forcément moi aussi je me demande s'il faut se ventiler, à gauche notamment. Je pense à Sarkozy pour un nouveau quinquennat. Il y aura pas de surprise, comme tu l'entends, il y aura pas le FN au pouvoir, jamais en France.
Ah non,
en tous
je
les
pense
cas.
Pas.
Mais donc on repart pour 5 ans de sarkozisme. Plus ni moins.
Je suis pas loin de penser la même chose que toi.
Alors, est-ce que ça déclenchera une crise sans précédent? Est-ce qu'une révolution s'en suivra? Rien n'est moins sûr.
Non, on s'alignera tout simplement à ce qui se passe déjà aux États-Unis, quoi. Un monde ultra-libéral où les pauvres seront plus pauvres, crèveront la dalle, et puis les riches seront plus riches, et puis voilà, tout baigne.
Là, ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce qui se passe dans un forum. C'est bien parce que, en fait, plutôt que parler du forum, on est en train de l'illustrer par nos discussions. Et dans un forum, on dirait oui, mais là, on est en train de nous dire il y a machin qui veut mettre des centrales, l'autre qui veut diminuer de moitié, etc. Et dans ce forum, il y a des gens qui disent attendez, il y a peut-être d'autres solutions que de mettre des centrales. Donc c'est ça l'idée du forum, c'est de dire voir des gens qui discutent ensemble sur un sujet, puis de voir d'autres opinions qui arrivent et de dire mais il y a peut-être d'autres solutions complètement différentes. Regarde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est 6 milliards d'êtres humains sur la planète, et il y a du boulot, pourquoi 500 millions maximum, peut-être même pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir? Une formidable opportunité, c'est qu'on est en train de détruire l'emploi. C'est génial. Je veux dire, les gens, il y a 100 ans, on leur dirait, mais attendez, il n'y a plus besoin de travailler pour avoir tout ce que vous avez dans votre garde-manger, parce que on a atteint des gains de productivité qui font que maintenant, il n'y a plus qu'une personne sur 10, même sur 20 ou sur 100 qui peut travailler. Mais les gens, ils auraient signé tout de suite en disant, allez, une personne sur 100, ok, on fait un tour, moi je travaille 3 jours dans l'année. Mais c'est formidable comme idée. Et au lieu de prendre à bras le corps cette idée en disant ok, partageons le travail, il y a des gens qui disent attention, on va être plus que un sur 100 à travailler, ce type là il faudra absolument qu'il ait toutes les richesses, et puis si on pouvait être 1 sur 200, c'est-à-dire que ce type là qui travaille, il pouvait travailler 2 fois plus, ça serait encore mieux. On est dans ce dialogue-là où il y a des gens qui sont en train de dire « Regardez, on a de moins en moins d'emplois, comment on va faire? Est-ce qu'on donne les richesses uniquement à cette personne ou à cette personne et à son chef ?» Il y a des gens qui disent « Mais attendez, il y a peut-être d'autres idées, puisqu'on a cette formidable opportunité de travailler moins, pourquoi on la prend pas? Pourquoi on propose pas ça ?» Et là, écarter ce débat, c'est-à-dire mettre des débats sur la sécurité, sur le 440, sur les agences de notation, c'est nous aveugler sur les autres solutions qui pourraient être envisageables. Et l'idée du forum, c'est ça, c'est de dire autour de la table, tiens, il y a des gens qui parlent de dire, bah tiens, il y a moins d'emplois, ou demain ça va être machin contre truc. Et ouais, mais il y a peut-être d'autres solutions.
Dont la décroissance.
Oui. Je pense à Serge Latouche qui viendra le 27. Non, mais j'essaye de raccrocher.
Anime.
Par exemple, sur les décroissances, moi j'étais allé à la foire bio de Musillac il y a pas très longtemps, enfin c'était la dernière fois, donc ceux qui ont mémoire se souviendront. Et moi je venais, je savais pas du tout ce que c'était que la décroissance. Hein. J'imaginais effectivement que la décroissance était de se chauffer à la bougie ou je sais pas quoi. Et l'orateur qui était là expliquait bien les choses, je trouve, parce qu'il disait, regardez, la croissance, c'est quoi? C'est des gains de productivité. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, un instit qui a 25 élèves devant lui. La croissance, la productivité, c'est dire demain, cet instit, il aura 50 élèves. Ouais, génial. On va, comme ça, à gagner des gains de productivité. C'est cette histoire de dire, il n'y aura plus qu'une personne sur 100 qui travaille. C'est ce que je disais tout à l'heure. La décroissance, c'est quoi? C'est de dire, la décroissance, on va mettre deux instits pour 25. Mais c'est pas du tout chauffer la bougie. C'est en fait lui donner du travail pour tout le monde et avoir une société qui est plus humaine avec des enfants qui vont effectivement peut-être mieux s'épanouir, être moins agressifs parce qu'ils seront écoutés, ils seront considérés. Donc voilà une image une explication de ce qu'est la décroissance.
Et tu comprends bien que ce discours peut être perçu comme étant complètement utopiste.
Alors il peut être utopiste. Le problème c'est que il est très facile de le démonter avec deux trois phrases à l'emporte-pièce. C'est-à-dire que démonter un truc comme ça avec des idées préconçues de la vox populi, enfin oui, oh, ça marchera jamais, etc. Il faut, pour une phrase qui dure 30 secondes, il faut peut-être une heure des discours pour l'expliquer. Et c'est là le problème, c'est que les gens sont aujourd'hui dans une société de consommation où tout est, ils zappent sur l'information, et arriver à s'asseoir, à se poser, à avoir au moins une heure de discussion pour arriver à démonter tout ce qu'on croit ne pas être possible, ça demande une énergie folle. Juste, puisque tu parles d'utopie, regarde ce qui s'est passé après-guerre. Après-guerre, la France était exsangue. On était vraiment à la ramasse, quoi. Il n'y avait plus rien. Il y a eu le Conseil national de la résistance, dans lequel il y avait des communistes. Bon, je suis pas, enfin voilà.
La sécurité sociale, c'est un député communiste.
Exactement, c'est exactement ça. Ils ont mis en place un système qui disait, on va mettre la sécurité sociale, et même mieux, on va donner des retraites, et même mieux, ceux qui n'ont pas encore cotisé, ils partiront en retraite et on leur paiera leur retraite.
Non mais t'as raison, il faut quand même, j'ouvre une parenthèse, n'est pas le général de Gaulle qui met sur pied la sécurité sociale, c'est un député communiste qui la propose à l'Assemblée nationale.
Exactement.
Mettre les choses dans leur contexte quand même.
Et ce truc-là, on dirait, imaginons que ça n'ait pas existé. Aujourd'hui, il y a un type qui se lève et qui dit « Ah voilà, je vais mettre en place la sécurité sociale. » C'est-à-dire que, contrairement à l'idée de dire « Je vais retirer les cotisations sociales. » Parce qu'on parle de défiscalisation des heures supplémentaires, c'est pas des défiscalisations, hein, c'est suppression des cotisations sociales. Donc, on va supprimer les cotisations sociales, c'est ce qui passe aujourd'hui. Ben, imagine quelqu'un qui va en contre-courant de ça et qui dirait « Aujourd'hui, on va doubler les cotisations sociales. » Et on va mettre en place une retraite, les gens partiront à 40 ans à la retraite et ils auront des congés de maladie. Mais j'en dis, mais c'est quoi cette histoire? Partir à 40 ans? Mais vous êtes fous? Vous allez supprimer le chômage? Parce que forcément, si les gens partent à 40 ans à la retraite, il va falloir les remplacer, donc on va falloir embaucher. Mais c'est utopique, totalement utopique. Eh bien, il y a des gens qui l'ont fait en 45 et ça a marché. Et c'est ça le problème, c'est que arriver à expliquer aux gens que l'utopie, l'utopie, c'est du concret, c'est des choses qui peuvent te mettre en place, c'est assez difficile.
Ouais, mais s'il n'y a plus de chômage, mon pauvre monsieur, où est-ce que les entreprises vont-elles trouver ce bon peuple corvéable à merci pour aller bosser dans les usines de merde?
Exact. C'est ça l'objet. Tu as tout compris. C'est-à-dire que l'objectif derrière tout ça, c'est effectivement d'avoir des gens qui sont corvéables à merci.
Il faut avoir sa petite main d'œuvre, dans la poche,
ses petits esclaves.
Après la petite main d'œuvre, la petite chanson. Anthony, tu es prêt?
Eh bien, on est prêt avec
le navéo peut-être.
Il y a quelqu'un qui a perdu son chemin.
Pas cette fois-ci. En tout cas, Jean, voilà, oui, il est omniprésent. Hein. On va écouter une chanson, un album intitulé Aigre Doux. C'est François Hadji Lazaro et qui nous chante.
Parle de grève.
Voilà, le 40e jour de grève.
Allez, 40e jour de grève.
Ciao. rêve. On ne pensait pas que ça durait comme ça. On la voyait bien plus brève, qu'elle donnerait un résultat. 40e jour de grève, occupation, milieu de travail. Quitte à ce que l'on en crève, on doit rester là plutôt que l'on s'en aille. Chère maison mère, vous les délocaliser et se taire, exporter les machines et nous cacher à nous autres toutes ces combines. Compte tenu de la législation en cours, le dépôt de bilan pour cette société a été confirmé ce jeudi auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Déclenché d'un coup, car on avait découvert par hasard, je rêve, que la boîte allait être mise au clou.
Bizarre, autour des feux de pneus, dans tout ce malheur, on était un peu heureux. Des barrières entre certains scandillaient, il y avait même des envies, on se sentait. Il y a même des gens qui jusque-là ne se parlaient jamais, mais là, se souriaient, papotaient.
Senti que le vent tournait, qu'il n'y aurait pas de trêve, qu'on ne gagnerait jamais. 40e jour de grève, les CRS tapaient en rythme les boucliers. Il fallait que la grève s'achève, en haut lieu, on avait tranché. Se sentait tout seul, l'avenir barré d'après. Compte tenu de la législation en cours, le dépôt de bilan de cette société a été confirmé ce jeudi auprès de la Chambre de commerce et d'industrie.
François Hadji Lazzaro, vous êtes en direct ce soir de la grand-messe, et oui, la grand-messe, avec une émission spéciale consacrée au FSL Forum Social Local, rediffusion dimanche à midi, je crois, hein. Mathieu, il faut que tu m'aides, c'est toi qui avais la grille programme. Ça doit bien être ça, oui, Mathieu. Alors ouais. Mathieu, à toi. Alors, à toi les rênes, mon père, mon
pour
frère.
Nous parler du... Alléluia. Pour nous parler du Forum Social Local, qui se déroulera à Séné les 27, 28 et 29 janvier 2012, François Merciol et René Guilherme. Alors, au risque d'être exhaustif, hein, nous allons citer les organisations formant le Forum Social Local. Elles sont nombreuses. On en dénombre pas loin d'une trentaine. Allez, 40. Comme ça. 40. Bah voilà, merci René. 40. Allez, comme ça, à l'envolée, l'humanité, les apprentis nature. Vous m'arrêtez lorsque vous voulez préciser, hein, qui elles sont. Plume FM, tiens, je tombe sur Plume FM.
Ça, c'est excusez-moi, un peu de prosélytisme. Sympa, très prometteur.
Un peu de prosélytisme. Politis, Réseau Éducation Sans Frontières, celle du Golfe. Hein, ouais. Le système d'échange local, je t'échange 2 heures de bricolage contre 2 heures
de lecture, je sais pas. Ouais.
Celle qui existe assez rarement, hein.
Celle qui existe assez rarement.
Il dort, il est mis en sommeil depuis 2 ans, mais...
2 heures de sieste contre...
Il a bien fonctionné pendant plusieurs années. On attend que quelqu'un le réactive, mais il est toujours là.
Parce que ça, c'est chouette, ça. C'est le troc.
Hein. Oui. C'est
une pas de monnaie.
Ouais, donc, du coup, pas de TVA. Oh, non,
c'est une bêtise. Et les cotisations dans tout ça.
Exactement.
Pour le sel de séance, c'est bien donc 2 ans de sieste contre 2 ans. Voilà.
C'est très intéressant.
Stop nucléaire. Stop nucléaire, Vélomotive, les alternatives, le pot commun, la libre pensée 56, Ingalan,
On est dans le commerce équitable, là, je crois.
Tout à fait. Ouais.
Le groupe libertaire louchu que nous avons reçu avec plaisir, les anarchistes du Morbihan.
Ah oui, toujours très sympathique.
Et toujours très actif.
Ouais. Bah, ils ont organisé, dans le cadre du Forum Social, vendredi dernier, une discussion avec Jean-Pierre Tertrais sur l'accaparement des terres agricoles.
Et ils viennent de faire sauter l'antenne, c'est tout.
Merci. Ouais, ça c'est leur habitude.
Non. Ils sont trompés.
Non, mais la conférence sera en ligne prochainement.
Qui d'autre également, les faucheurs volontaires que nous avons reçus aussi ici à Plume FM, l'Espéranto Van, Europe Écologie Les Verts Pays de Van et le Parti de Gauche. Alors, pour revenir deux secondes sur ce que tu disais tout à l'heure, apparemment, la présence de ces deux partis politiques, Europe Écologie Les Verts et le Parti de Gauche, a fait l'objet d'un débat, au sein de, du Forum Social Local. Pourquoi?
Oui, alors, pourquoi? Peut-être petite explication sur comment ça marche. Parce qu'on peut se dire, comment des gens aussi différents peuvent encore discuter. Juste un exemple. Comment faire discuter la libre pensée, donc laïque, profondément laïque, hein, qui va œuvrer contre le financement d'édifices cultuels, etc. Et la CIMAD ou le CCFD. Hein, CIMAD protestante, CCFD catholique. Bah, déjà une question intéressante. Comment faire cohabiter le groupe anarchiste Lochu, qui est donc pour une autogestion, puisque l'anarchisme, ce n'est pas des gens qui foutent des bons, c'est des gens qui sont en train de dire prenez-vous en main. Et puis des partis politiques qui, eux, sont sur un système qui n'est pas du tout autogéré, puisque c'est un chef, etc. etc. Et ben ça marche. Et ça marche pourquoi? Parce qu'on s'écoute. C'est-à-dire que lors des réunions, eh bien d'abord au début de la réunion, on dit qui veut être animateur. Bon, déjà, il y a en général peu de volontaires. Hein, parce que... et une fois que l'animateur est désigné, eh bien voilà, les gens lèvent le doigt. L'animateur prend les noms et après on donne la parole en fonction, dans l'ordre de la prise de parole, et on écoute les gens jusqu'au bout, même si on n'est pas d'accord avec eux, parce que l'intérêt c'est de pouvoir discuter et dialoguer, et en fait tous ces gens arrivent à construire quelque chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez me dire ça marche, ben non, parce qu'en fait c'est pas si extraordinaire. Si on regarde bien, tous les gens qui sont là, ils sont là pour essayer de faire avancer les choses. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas des partis qui seraient pour... je sais pas comment désigner, mais qui seraient pour foutre en l'air les choses, etc. Non, tous les gens qui sont là sont dans un objectif humanitaire, de faire progresser les choses. Alors, la règle de discussion, c'est pas la majorité. Alors, ça serait vachement simple. Par exemple, il y a une question qui a été posée, et qui a été posée, qui est de dire, est-ce qu'on fait l'adhésion des partis politiques? Alors là, très simple, si on avait été en vote majoritaire, ça durait 5 minutes, le vote. Hein, on levait les mains, et je suis sûr que d'ailleurs, ça aurait été non. D'ailleurs, c'est sûr que ça aurait été non. C'est pas ce qu'on a fait. Parce qu'on s'est dit, dans ce cas-là, on exclut les minorités. Or, tous ces groupes-là qui font partie du FSL, ce sont tous des minorités. Tous, le groupe Lochu, RESF, etc. Tout le monde est des minorités. Alors comment on peut faire cohabiter des gens avec un système qui serait un système majoritaire? Nous, ce qu'on a pris comme parti, c'est de dire d'atteindre une décision uniquement quand tout le monde était pas d'accord, mais il n'y avait plus d'objection. Par exemple, pour les partis politiques, il y a eu des objections. Et alors, c'est vachement intéressant, les objections. Parce que là, on pose la question, on dit aux gens, pourquoi vous avez une objection? Alors, par exemple, c'est de dire, ouais, mais en 2012, il y a des élections. Et donc, on veut pas de partis qui viennent pour faire du prosélytisme et défendre un candidat. Ah, ok. Mais si on fixait la règle que les partis qui seront présents au Forum Social ne soient pas là pour mettre en avant des gens, mais de parler de leurs idées. Là, ça devient plus intéressant, parce que là, du coup, Europe Écologie Les Verts, s'ils parlent d'être contre le nucléaire, ça nous intéresse de voir, après Fukushima, comment on peut essayer de s'en sortir. Donc, le fait de ne pas avoir eu un vote majoritaire, mais de discuter, a fait qu'on a pu obtenir un consensus, et de dire, finalement, sous réserve, sous certaines conditions, on va progresser. Et c'est par le dialogue qu'on y arrive. Je ne sais pas si ça répond bien à la question.
Si, parce que j'ai l'impression que plus que l'appartenance à une asso, à un parti politique, c'est l'individu qui vient s'exprimer, qui vient partager ses idées. C'est ça, en fait, l'idée.
Et c'est pour ça que j'irais même au plus loin que l'individu, j'irais les idées.
C'est vraiment les idées qui circulent, qui s'échangent.
Exactement. Ouais, c'est ça.
Alors moi je ferai une petite critique quand même. Je remarque que le groupe Monsanto n'a pas été invité.
Alors voilà.
Alors qu'il aurait certainement beaucoup à dire.
C'est là où je dis voilà, on a que des gens de bonne volonté, des groupes minoritaires et qui sont là pour construire. Donc évidemment, je pense qu'on ne verra pas Monsanto, on ne verra pas Areva, on ne verra pas des partis d'extrême droite. Enfin voilà, il y a des choses qui naturellement vont pas apparaître dans le forum social. C'est pas que il s'est pas le bienvenu, enfin non, il sera pas le bienvenu, mais s'il venait, de toute façon il ne supporterait pas notre mode de fonctionnement, puisque notre mode de fonctionnement c'est l'écoute, et là on est en contradiction totale avec des gens qui veulent faire du profit ou qui veulent imposer leur point de vue aux autres.
Non, je parlais de Monsanto parce que en ce moment il s'est quand même passé quelque chose d'assez important, c'est que l'OGM, le maïs, vient d'être autorisé. Et les agriculteurs vont se précipiter, avant que le gouvernement trouve une riposte quelconque, vont se précipiter pour en foutre partout. Et c'est dans les mois qui viennent. Et ça va être une catastrophe nationale, quoi. Irréversible.
C'est pas la première fois que le gouvernement actuel se précipite pour mettre en place des choses qui vont être très difficiles à démonter par la suite. C'est comme je le disais tout à l'heure, une phrase pour détruire, une heure pour reconstruire. On est effectivement là à la fin d'un règne, et on est en train de tout saboter pour que, au cas où les gens ne seraient pas là dans aucun canal prochain, eh bien, ça soit difficile de réparer les bêtises.
Mais je sais pas, Daniel, s'il faut faire endosser aux politiques toute la responsabilité, par exemple, de l'utilisation des OGM. Les agriculteurs sont aujourd'hui informés sur les risques.
Il y avait un moratoire.
Qu'ils font courir au sol, à la population.
Il y avait un moratoire qui vient de tomber. C'est-à-dire que jusque-là, on avait une protection en France. Et elle vient de tomber. Et elle vient de tomber parce que c'est la dépendance, justement, à l'Europe qui a fait que c'est tombé. Ça dépend plus uniquement de la France, ça dépend de Bruxelles. Et Bruxelles l'a autorisé en France. Et là, ils sont en train d'essayer de trouver une faille dans le système pour pouvoir contredire la décision de Bruxelles. Et ça va pas être facile. Et ben, pour l'instant, ben, tous les agriculteurs, ils vont s'engouffrer dedans parce que les profits sont immenses, quoi.
Et dire que les agriculteurs sont informés, j'en suis pas si sûr.
François,
regarde,
si.
Non mais écoute, la dernière étude qui a eu lieu.
On peut plus ne pas être informé sur les OGM aujourd'hui.
D'accord, mais juste une remarque sur l'état de santé des personnes en retraite en ce moment. On remarque que les agriculteurs sont ceux qui sont le plus malades.
Bien sûr.
Pourquoi ? Parce qu'ils commencent à le savoir. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont utilisé des tas de saloperies.
Mais bien sûr, mais ils savent. Pourquoi
ils ont utilisé ces saloperies ? Parce qu'on leur a dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, ils ont le choix, soit ils crèvent, parce qu'ils sont soi-disant moins productivistes que les autres, et donc ils pourront pas vendre, etc. Soit ils disent, mais attendez, crédit patate, etc. On va vous dire, on va vous régler votre vie, vous allez semer tel truc à tel moment, etc. Et on leur dit, à ce moment-là, vous avez une garantie de pouvoir survivre. Le type qui est en moins que le SMIC se dit, j'ai pas trop le choix, j'ai des enfants, faut que je les fasse vivre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a ce genre de calcul. Et ils vont là-dedans. Et effectivement, ils se disent, ça va peut-être être dangereux, mais après moi, le déluge, en gros, on est dans ce genre de situation.
Oui, ils sont conscients.
Et il y a quand même bien une double responsabilité. Ça permet pas aux politiques de se défausser. Hein. On est bien d'accord. Enfin, moi, je trouve.
Oui.
Les agriculteurs le savent. Et ils continuent à foncer dedans parce que, effectivement, il y a des pressions économiques telles que c'est pas encore facile aujourd'hui de retourner sa veste du jour au lendemain comme ça, quoi. Mais il y a aussi les politiques en face qui savent aussi tout à fait ce qui se passe et qui sont de toute façon coincés ou qui acceptent parce que de toute façon c'est du court terme, du profit tout de suite, quoi. On est toujours dans la même logique, mais la responsabilité est bien double.
Les deux le savent. Hein. Elle est peut-être même triple.
Elle est probablement triple parce que le consommateur est aussi.
Et qu'est-ce qu'on fait, nous ?
Bien sûr.
Alors il y a des moyens de réagir.
Ouais, alors là, justement, tu poses un bon. C'est vrai qu'on s'écarte plus ou moins du forum social, qu'on ne le présente pas en bonne et due forme comme peut-être tu l'aurais souhaité. Mais peu importe. Écoute, c'est un forum ici, la grand-messe.
Je vois bien.
On parlait tout à l'heure du pouvoir du citoyen. Quel est-il ? Est-ce qu'il est encore dans le bulletin de vote qu'il déposera dans l'urne, ou ce que disait Pascal, en fait, à demi-mot, est-ce qu'il n'est pas dans la façon de consommer ?
Bah, si.
Et je crois qu'il y a des organisations, il y a Ingalan, qui sera là au forum social local. Je ne sais pas s'il y en a. Rhizome, qu'est-ce que c'est que Rhizome ? Non,
alors,
rien à voir.
Ils sont, pas tout à fait. Ils sont pour le développement du logiciel libre, en fait. Ce qui est une forme de lutte contre le capitalisme aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir du citoyen, c'est pas sa façon de consommer.
Mmh. Il y a les gaz aussi qui sont présents, puisqu'il y a les coopératives de Séné. Qui est, qui est un gaz, donc qui est aussi une autre forme de consommer.
Il y a,
le café de la Pente, au travers du pot commun, qui est aussi une épicerie coopérative.
Un gaz aussi.
Gaz. Donc oui, les gens là présentent une autre façon de vivre en dehors des schémas habituels qu'on nous présente, c'est-à-dire la grande distribution, etc.
On peut même se passer du nucléaire. Nous, c'est le choix qu'on a fait. On a souscrit, nous, Enercoop, une coopérative qui distribue de l'électricité, qui sera là d'ailleurs au forum,
qui sera là en plein dedans.
Et nous, on s'est abonné, on paye un peu plus cher, mais on n'utilise que de l'électricité d'origine, soit éolien, hydraulique, photovoltaïque, mais en aucun cas nucléaire. C'est garanti 100% non nucléaire, uniquement en énergie renouvelable, ce qu'on appelle renouvelable, le mot est un peu galvaudé, mais et ça, c'est aussi une façon d'agir, comme d'aller s'approvisionner chez les producteurs bio du coin, dans les AMAP ou aller dans les gaz ou les trucs comme ça. Je trouve qu'on peut réagir chacun à sa façon.
Tout à fait.
Et personnellement, je veux dire individuellement, sans partir dans des grands mouvements de masse, mais on peut tous agir au quotidien.
Là, l'idée dans ces forums, c'est de présenter ces alternatives et, par exemple, au travers de c'est les toilettes sèches. Donc c'est aussi une autre façon de vivre autrement. Il y a effectivement.
Alors moi, j'ai mis un petit bémol. Excuse-moi, je te coupe. À propos des toilettes sèches, j'avais entendu quelqu'un dire. Alors effectivement, je pourrais pas te donner la source. Ah, je sens.
Non, mais est-ce que tu es pas un spécialiste? Alors je vois tout de suite le piège.
Non, il s'agit pas du tout de piège, mais ça me posait question. Un type qui avait dit que si jamais le monde entier se mettait dès demain aux toilettes sèches, on aura un vrai problème pour produire la sure de bois. Il faudrait abattre quelques forêts. Non, voilà, c'était.
Il n'y a pas que la sueur pour faire fonctionner des toilettes sèches.
Peut-être, mais c'était la limite. On peut aussi envisager parfois les limites d'une alternative.
Il y a d'autres produits. Nous, on n'utilise pas de sûre. On a des toilettes sèches. Ça doit faire 7 ans, 8 ans qu'on a des toilettes sèches. On est des précurseurs sur ces rangs. On utilise des déchets de lin. C'est du lin, c'est ça ?
De la balle de son.
De son, pas de lin, oui. Voilà. Et qui remplace la sueur, donc on n'utilise même pas la sueur. Donc il y a plein d'autres.
Moi je vous invite chez Daniel et Pascal parce qu'apparemment c'est un laboratoire
expérimental.
Et puis à contrario, c'est des choses qui peuvent servir d'engrais, etc. Donc c'est aussi toute une filière chimique qu'on fait disparaître. On fait peut-être produire du bois d'un côté, mais de l'autre côté, on a une richesse qui peut être exploitée.
Alors, au mois de janvier, au Forum social local, il y aura des conférences.
Oui.
Des projections.
Oui. Tu vois ton air décidé.
Ouais.
Oui. Des débats surtout.
Des tables rondes.
Voilà. Le mode de fonctionnement. Alors, celui qu'on a adopté, c'est pas d'avoir des experts, parce qu'aujourd'hui le mot expert, on est un peu refroidi là-dessus. Il y a des gens qui viennent et qui disent moi je suis expert de tout, en oubliant de dire qu'ils sont payés par la maison, soit par le nucléaire pour défendre le nucléaire, soit par les télécoms pour défendre les micro-ondes,
des lobbyistes.
Tout à fait, des lobbyistes. Donc on est assez attentif là-dessus. Ce qu'on veut, c'est que les gens discutent d'un sujet, donc ça va être des débats. Maintenant, avant de discuter, il faut un minimum de connaissances. Donc, on va avoir des gens qui vont discuter pendant 3 quarts d'heure, qui vont présenter, qui vont poser le sujet, que ça soit sur l'accaparement, que ça soit sur les médias, des choses comme ça. Et puis après ces 3 quarts d'heure, bon, effectivement, on s'est fait une idée. Et après, le débat, il est dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a autant de temps qui est consacré pour l'échange des idées. Donc, c'est pas uniquement dans à sens unique. C'est pas des savoirs chauds et des savoirs froids, comme dit Thierry. Il prend cette image qu'il a repris de Franck Lepage en disant il y a des masses d'air chaud et des masses d'air froide, quand ça se mélange, ça fait pas de l'air tiède, ça fait des orages. Et bien, ce qu'on veut, c'est ça, c'est avoir des orages, c'est avoir des mélanges qui permettent de produire autre chose et qui soient beaucoup plus, qui aient beaucoup plus d'énergie là-dedans.
Alors moi, j'ai une petite tristesse au sujet de ces forums, le forum social, c'est que les gens qui vont là-dedans, c'est toujours les mêmes.
Des convaincus.
C'est des convaincus. On les retrouve, à une galane, à Rochefort-en-Terre, au Café de la Pente, on les retrouve là, ils sont partout, c'est toujours la même. Alors comment faire venir Alors, d'autres ça, gens, comment intéresser d'autres gens?
Excellente idée, une excellente question. Je suis allé une fois sur une formation, un atelier de la SCOP Le Pavé, sur la mobilisation des militants. Et je vais pas vous refaire la formation qui a duré des heures en 3 minutes. Je vois qu'on fait des signes avec de l'autre côté du miroir.
C'était juste pour te dire, François, donc la SCOP Le Pavé sera présente jeudi 26 janvier à Saint-Nolf à 19h pour leur conférence gesticulée Le Plein d'énergie. Voilà.
Ah oui, tu vois. Excellent. J'ai acheté le DVD, j'ai regardé.
Là, tu verras pour de vrai.
Il faut y aller. Voilà. Donc la SCOP Le Pavé, ils font de l'éducation populaire, ils ont des ateliers, différentes formations. Et ce qu'ils ont dit, voilà, vous organisez une manifestation quelconque. Plume FM veut faire, je sais pas, fêter ses 50 ans. Hein, et qu'est-ce qu'on fait? On fait des grandes affiches, hein, on fait des dépliants, on les distribue. Est-ce que les gens vont venir? Alors, on va poser la question à l'envers. Si vous recevez une affiche qui vous dit, une grande manifestation athlétique demain, j'imagine que vous faites pas de l'athlé, hein, parce que sinon ça marche pas. Voilà, ou sinon vous prenez autre chose. Hein. non, mais c'est parce que j'ai vu votre physique. C'est pour ça.
Merci.
Et puis je peux me permettre à la radio, on peut pas vérifier.
venez vérifier. Ouais.
Eh bien, les gens viennent pas. Pourquoi? Bah parce que ils connaissent personne, parce que ils ont des gamins et j'ai des gamins, je sais pas où les mettre pour etc. Donc il faut d'abord se mettre à la place des gens. Leur offrir des services. Par exemple, une garderie gratuite. Ah bah tiens, c'est marrant, au Forum Social, la garderie gratuite. Ah ouais, tiens, j'avais pas vu ça.
Il y a des clous de penseurs.
Comme chez IKEA.
Voilà. Donc, exactement. Il faut essayer de répondre à toutes les préoccupations qui pourraient empêcher les gens de venir. Et puis après, est-ce qu'ils vont quand même venir? Ben non. Quand est-ce que vous êtes allé, vous, à un truc auquel vous auriez, je sais pas, un concert ou autre de classique auquel vous ne seriez jamais allé?
Moi, je crois, je suis pour le happening. C'est-à-dire que le forum social local, bien évidemment, il a asséné et c'est un lieu où tout le monde peut aller. Moi, je le vois dans un centre commercial. Je le vois sur un parking d'un centre commercial.
On est d'accord.
Je le vois là où sont les gens qui viendront jamais à un forum social local.
Alors, je termine d'une phrase.
En même temps, tu n'aurais pas le droit de t'y installer, bien sûr.
Mais je termine d'une phrase. Leur idée, c'est de dire, vous venez des fois parce que vous avez été amené par un ami. Et le seul moyen de faire venir les gens, c'est que si nous tous là, autour de qui écoutons l'émission, etc., on dit, tiens, j'amène un ami. D'abord, on se sentira moins seul. On pourra discuter ensemble et là les gens viennent. C'est-à-dire que la première fois on est 10 et puis les 10 disent j'emmène quelqu'un, on se retrouve 20 et après on se retrouve 15. C'est le seul moyen de faire venir les gens. Alors après, comme tu dis, il faut aller à rencontre des gens, mais dans les lieux publics. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi au travers de certaines conférences gesticulées. L'idée c'est de se mettre dans la file d'attente d'une banque et puis commencer à dire ah ouais mais moi j'en ai marre mon banquier. Et puis l'autre répond ah ouais t'as raison. Et puis les gens écoutent la conversation. Ils se rendent pas compte qu'en fait c'est une pièce de théâtre. Mais on les met dans une situation où on leur passe de l'information. Donc ça, c'est aussi des idées qu'on creuse. Donc ça fausse fort de ce point de vue-là.
Ah oui, parce que c'est important quand même ce que tu viens de dire par rapport à la mobilisation des gens. Bon, parce que bon, c'est vrai que bon, moi je vais citer un exemple. On a fait il y a un mois et demi maintenant. On a fait la semaine de la solidarité internationale. Bon, c'est un événement qui se passe tous les ans à la même époque, fin novembre. Surtout le territoire français. Bon, partout, vous êtes un petit peu au courant de tout ça. Bon, donc on a fait la semaine de la solidarité internationale à Vannes, il y a un mois et demi, fin novembre. On a fait quelque chose dans le quartier de Ménimur. C'était une soirée. Il y avait un film qui avait été fait avant par l'association, des artisans filmeurs, qui avait fait un film sur le quartier avant. Ce film était pas mal, il était même très bien même. Bon, la soirée a fait le plein. Elle a fait le plein avec les gens du quartier qui étaient intéressés parce que bon, il y avait ce film. Ce film, il était quand même sur un thème intéressant sur le plan de la réflexion, bon, etc. Puisque c'était sur les phénomènes de migration. Bon, c'est vrai que dans ces quartiers populaires, il y a beaucoup de migrants. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont déracinés en quelque sorte. Donc, bon, voilà. Le thème, c'était sur ce sujet-là. Or, les gens sont venus. La salle était pleine à craquer. Il y avait même plus de place dans la salle. Donc, c'est bien la preuve que quand on fait des choses
sur place.
Comment dire, qui colle à la réalité des gens, qui colle à leur vie quotidienne, les gens se déplacent. Même si c'est des sujets, bon, sur lesquels il faut quand même réfléchir un petit peu, quoi. Je veux dire, c'est pas, hein, voilà, c'est pas seulement voir un spectacle, c'était aussi, voilà, c'est autre chose. Donc c'est bien la preuve que quand on, qu'on peut mobiliser les gens. Alors bon, après, là, après, c'est vrai que dans les forums sociaux, bon, ou dans d'autres activités, on retrouve toujours les mêmes personnes. C'est nous, moi, je vois quand nous on fait une conférence ou sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, bon, c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes personnes à peu près. C'est vrai que la difficulté est toujours de faire venir du grand public.
C'est une vraie frustration de prêcher que pour les convaincus.
Mais malgré
ce
tout,
ce qui nous arrive aussi ici à Plume FM, avoir le sentiment de prêcher des convaincus.
Mais malgré tout, je pense qu'il y a possibilité quand même d'amener les gens. Voilà.
Ouais. C'est un des objectifs aussi du forum. Si on regarde bien, quand il y a par exemple une information sur la CIPA, on se dit au départ, il y a que les gens de la CIPA qui vont venir. On est d'accord. S'ils connaissent le sujet, ils connaissent le problème de l'aéroport, ils savent que c'est un
projet... La CIPA, donc, c'est l'association
qui lutte contre l'implantation d'un aéroport gigantesque du côté de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire à côté de Nantes, qui devait faire 4 kilomètres pour accueillir des gros porteurs, donc c'était la raison d'être de ce nouvel aéroport. Et on s'aperçoit au fil de l'eau et de la restriction de budget qu'en fait les pistes qui vont être construites sont exactement de la même taille que ceux de Nantes, donc des gens voient plus tellement à quoi ça sert. Et donc, s'ils avaient fait une conférence uniquement sur ce sujet, ben, uniquement les gens qui connaissent le problème seraient venus. L'avantage du forum, c'est qu'ils vont le faire dans ce cadre-là. Et ceux qui étaient venus pour les médias ou autres, mais ils se disent, mince, ce sujet aussi est abordé. Et donc, l'intérêt du forum, c'est que la quarantaine d'associations là de membres qui vont venir, non seulement ils vont présenter leurs problématiques, mais ils vont être aussi à l'écoute des autres. Et c'est déjà important de pouvoir faire circuler ces problèmes, parce qu'on se rend compte qu'il y a des points communs, quoi. Il y a des choses qui se recoupent.
Alors ça a ses limites quand même, le fait de vouloir mixer comme ça des centres d'intérêt différents, tout bêtement sur un plan purement matériel. On ne peut pas à la fois suivre la conférence sur la Palestine et le problème des services publics qui sont en train de se faire démonter ou le nucléaire dont on ne sait plus quoi foutre aujourd'hui. Ouais. C'est aussi frustrant. Alors, mais c'est vrai que c'est une réflexion intéressante. Mais par contre, moi je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut travailler à la mesure de ses bras, que voilà, c'est du travail de réseau, de terrain, et deux, que la notion de territoire est essentielle. Là, le forum social prend un peu un autre angle d'attaque en se disant on mélange des gens et des genres, quoi. Mais autrement, le fait de s'appuyer sur un territoire et sur la population qui est dessus et d'aller sur ces centres d'intérêt, bien sûr que ça mobilise encore plus si les gens sont investis dans l'action elle-même, la créent eux-mêmes.
Il faut leur expliquer qu'effectivement, ils sont concernés.
Là, pas leur expliquer, non, leur montrer, leur donner les moyens d'être intégrés à l'histoire, c'est tout, hein. C'est pas leur expliquer, je pense qu'ils sont capables de comprendre sans qu'on leur fasse un cours.
Là, l'idée de pourquoi il y a trois thèmes en parallèle, le samedi. Alors, on avait la possibilité de faire le forum sur une semaine, mais bon, les gens travaillent, tout ça, c'est pas toujours facile. Alors, on a pris un autre parti qui était de mettre de la matière pour effectivement intéresser les gens à venir, et puis on filme les conférences et après on les met en ligne.
Ouais, c'est ça, donc, c'est pas fini.
C'est moins bien quand on le regarde a posteriori sur un petit écran, mais voilà, après on peut faire ses choix en se disant ben ça je veux le voir comme spectacle vivant, en vrai, je veux participer au débat, je veux contribuer au débat, et puis celui-là ben je connais moins, mais je pourrais quand même
le voir ou l'écouter, puisqu'il y a aussi d'autres conférences qui seront enregistrées.
Exactement, et qui seront diffusées sur Plume FM.
La bonne radio. La bonne radio qui vous propose une pause musicale avec les Têtes Raides. Tiens donc. Un homme pressé.
Ah non, les Têtes Raides, c'est pas un homme pressé.
En effet, c'est bien les Noirs Désirs, pardon.
Dans un service.
du même monde que moi. Vous n'imaginez pas ce qu'ils sont des médias, moi je suis riche, très riche, je suis dans l'immobilier, je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer. Comme le tout Paris et puis le reste aussi, mes connaissances uniques et leurs femmes que je fréquente évidemment. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi, il n'y a plus de secret, je suis le roi des rois. Explosez le dimanche, pulvérisez l'audience. Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision, pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. La nourriture à ses yeux affamés, vous voyez qu'il demande, nous les savons avides de notre pourriture, mieux que de la confiture, la tête cochons. Qui veut de moi dégainer de mon cerveau? Qui veut entrer dans la toile de mon
désir avec un homme pressé. Voilà, et avec une belle erreur tout à l'heure. Alors, on continue avec la grand-messe, avec donc notre père à nous tous, c'est Mathieu qui est là à l'animation et autour, et bien bien accompagné par l'équipe aussi de Plume Éphémien, père Daniel et puis sœur Pascal et puis une jeune nonne, c'est Julia.
Et François Merciol et René Guilherme, les invités qui nous parlent du forum social local qui se déroulera les 27, 28 et 29 janvier à Séné. Alors, trois thèmes principaux au cours de ce forum, les médias, l'accaparement des terres et les grands lobbies. Allez, commençons. Alors ça, c'est pour le samedi, hein. Il y a aussi oui. Le vendredi, mais allons-y, partons sur ces trois thèmes. D'abord, les médias. Alors, plusieurs intervenants, Michel Desmurgés, par exemple, TV Lobotomie.
Oui.
C'est un livre, ça?
Alors c'est un livre. En fait, c'est un chercheur qui est parti donc sur des faits, hein, des éléments statistiques, des mesures, des choses comme ça. Et alors c'est intéressant quand on lit la quatrième de couverture de son bouquin, c'est de voir le lien entre le fait qu'une ado regarde Desperate Housewives à la télé et le fait qu'ensuite elle ait une grossesse non désirée. On dit mais je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Ben oui, parce que en fait dans ce genre de série, tu vois, quand il y a une nana qui rencontre un type, dans la vraie vie ça va prendre 6 mois, 1 an. Bon, non, là on a 1 heure et demie, hein, coco, on peut pas le faire comme ça, hein. Dans 10 minutes vous couchez ensemble. Ah d'accord. Et les gens qui regardent ça se disent bah on rencontre quelqu'un, dans 10 minutes il faut coucher ensemble, sinon je suis has-been, quoi. D'où les problèmes de mimétisme dans la société qui provoque ce genre de choses. Alors là je parle de cet exemple là mais c'est aussi sur la violence, une violence extrême qui peut être reproduite dans nos sociétés. Il faut voir qu'on est dans une société la plus sûre au monde. C'est-à-dire qu'on a, c'est l'époque aujourd'hui où il y a le moins de violence dans nos sociétés. C'est très curieux quand on dit ça. Mais en revanche, elles sont extrêmement médiatisées et elles sont extrêmement violentes. Voilà, et parce qu'il y a des schémas qui sont reproduits. Donc, Michel Desmurger, là, va nous parler de ce genre d'effet. Alors, il part sur des éléments très intéressants. Il y a des endroits dans le monde où il n'y avait pas la télé et où ils ont installé le câble. Alors, ça peut être au Canada, en Australie ou autre. Et là, ils ont des mesures réelles, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, à notre époque, quand on installe la télé, quel est l'impact sur la société? Donc, ça, c'est. Bon, c'est un aspect. Il y en a d'autres qui vont être déclinés sur les médias. C'est l'indépendance des médias, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de tout dire dans des médias? Et si on dit des choses qui déplaisent, est-ce qu'on peut encore survivre malgré les financements dont on a besoin? C'est-à-dire que quand je dis ah ben non monsieur, vous vendez des produits chimiques qui sont pas bons pour la terre, désolé mais je vous donne plus d'argent pour votre journal. Je vais peut-être pas donner ce genre d'informations. Donc de gros problèmes de médias.
C'est pour ça que je parlais de Monsanto tout à l'heure.
Moi je suis désolé de vous dire, vous allez plus avoir de subvention de la part de Monsanto. C'est triste, hein, mais. Donc voilà, oui. Il y a des médias qui sont pas plus libres que d'autres, hein, dans lesquels on peut s'exprimer. Que dire d'autre?
Tu l'as vu, je crois, Pascal, sa TV Lobotomie?
Je l'ai pas fini. Il y a une dimension de plus dans ce bouquin-là par rapport à ce que tu as dit. Il y a l'idée qu'on a aujourd'hui suffisamment de recul, d'après ce qu'il dit de lui. On a 20 ans, 25 ans de lecture sur justement des gamins qui sont nés avec la télé et d'autres pas. Et quelle dose de télé et comment ça grandit à mesure que les gamins grandissent eux-mêmes et l'impact que ça a aujourd'hui au bout de 20 ou 25 ans de télé ingérée à raison d'une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, dix incroyable. Heures par jour. Et incroyable. À quel âge on a commencé ouais. Aujourd'hui, c'est la télé nourricière à 6 mois. Quoi. Exactement. Et là, on a suffisamment de recul pour voir l'impact que ça a réellement sur le développement du gamin, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le QI. Ça, c'est bluffant. Quoi. Mmh. C'est quelque chose qu'on sent intuitivement quand on a regardé la télé un moment et qu'on a fini par la foutre à la poubelle. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas chiffrer, quantifier. Et lui, si, quoi. Voilà. Lui, il nous dit, ben voilà, voilà les résultats aujourd'hui. Mmh. On a le recul nécessaire. On a fait des études statistiques avec un groupe témoin, un groupe grandeur nature, etc. Et on peut vous dire que ça fait ça. C'est balèze.
Mais le constat est terrifiant. On peut pas s'imaginer les dégâts
incroyable.
Que ça fait.
Et c'est même quand on sait que c'est nocif, on n'imaginait pas à quel point.
Mais en même temps, tout le monde le sait. Ça aujourd'hui, c'est pareil. À force d'informations.
Ah, non.
Moi, je me souviens
pas.
Avoir vu dans un programme télé une émission qui proposait. Ou non, mais je crois même c'était Arte qui proposait en fait à tout un quartier, tout un immeuble, de se priver de télé pendant un mois. Et ça avait été filmé. Et bien évidemment, au bout de ce mois, les gens avaient retissé du lien. Parlaient, discutaient, se rencontraient. Tout le monde sait à quel point, je crois, la télé est nocive.
Je crois pas.
Vous pensez que les gens sont dans le déni?
Je crois qu'ils sont dans le déni. Je crois qu'il y a les contre-arguments qui sont du genre « mon gamin est capable de regarder tel film alors qu'il n'a pas encore l'âge pour le faire. » Et pourtant, il comprend. Et donc, forcément, il est plus intelligent que celui de ma voisine. Enfin, il y a tous ces discours-là qui sont véhiculés et qui sont utilisés. En dehors du fait simplement de dire moi j'ai des gamins, je me démerde tout seul avec et j'en peux plus quand j'arrive du boulot, donc au moins avec la télé je peux souffler un moment. Ça c'est à la limite entendable, même si c'est fou, mais le style mon gamin est plus intelligent que les autres parce que il est capable de d'avaler ça et que c'est pas de son âge normalement, ça c'est un truc qu'on entend.
Et politiquement, c'est désocialisant,
oui.
C'est-à-dire que les gens restent
sûr.
Chez
ça,
eux,
oui.
Il n'y a plus de veillée, il n'y a plus de lieu d'échange, donc comment parler de politique à partir du moment où on ne peut pas parler avec son
ça
voisin?
Ça aussi, ça déstructure le tissu social, bien sûr.
Une fabrique de prêt-à-penser aussi.
Ouais.
Pas... Alors, on a donc Michel Desmurger qui présentera TV Lobotomie, Denis Siffer, ça c'est un journaliste de Politis?
Exactement, un journal indépendant, donc il va nous parler de comment on peut avoir être dans un journal indépendant et pouvoir continuer à travailler. Alors, Gilles Balbastre, bon, point d'agression, mais qui lui est journaliste indépendant, qui a fait dernièrement Les Chiens de Garde, enfin,
c'est Les Nouveaux Chiens de Garde, qui a adapté le bouquin de Serge Halimi.
Exactement. Et ce qui, alors moi je ne l'ai pas vu, j'attends avec impatience de le voir, il paraît que c'est terrifiant. Quoi.
Mais nous,
il va
on
passer
l'a
assez
vu,
rond bientôt.
Oui, on l'a vu en exclusivité, puisque c'est vrai qu'on va faire une séance de cinéma avec un film débat, animé notamment par Mathieu ici présent. Ce sera le dimanche 11 mars. Donc voilà, je vois déjà.
Ouais, je vais le mettre sur l'agenda.
Voilà, ce sera donc dans l'après-midi.
l'après-midi du dimanche 11 mars avec normalement la présence aussi d'un des deux réalisateurs. Okay. Et c'est vrai que là c'est aussi impressionnant de voir on parlait tout à l'heure de bah là ici on est enfin en plein dans le sujet avec l'indépendance des médias là il y a un petit exemple très très simple de du groupe Bouygues qui est propriétaire de TF1 et qui dans les années 2000 là avait été pris un peu enfin il y avait un souci notamment avec l'ASN donc l'agence de la sécurité nucléaire qui avait voulu arrêter le chantier de Flamanville puisqu'il y avait un problème de notamment des fondations et donc il y avait une analyse qui avait été faite pour essayer de voir comment les médias allaient relater cette info là et donc sur tous les autres médias France 2 et les radios on parlait de l'arrêt du chantier et bizarrement en regardant tous les journaux télévisés de TF1 pas une seule info sur ce sujet. Voilà, c'est un exemple assez criant des liens qu'il peut y avoir entre le monde industriel et puis les médias.
Ouais. Ils ont récidivé très récemment, puisqu'apparemment, le jour où Free a proposé sa nouvelle offre, là, le quatrième opérateur, TF1 n'en a pas parlé de la journée. C'est bizarre.
Ouais.
Alors, c'était le thème des médias. Autre thème abordé lors de ce forum social local, l'accaparement des terres.
Enfin, je voudrais revenir d'un tout petit peu.
Je t'en prie, René.
Juste 30 secondes sur les médias. Un exemple criant quand même, c'est l'Italie, avec Berlusconi, qui, je crois que là,
on a touché le fond.
On a touché le fond, quoi.
Sarkozy est pas très loin derrière, je crois.
Oui, il est pas très loin derrière, mais enfin, bon.
Si on lui laisse un peu le temps, il peut faire mieux. Hein.
Peut-être qu'en France, il y aura des réactions, peut-être, bon, plus comme Italie, quoi.
Non, voilà. Parce que c'est insidieux, mais c'est déjà comme ça.
Oui, ouais. Tout à fait. Donc,
c'est plus insidieux, c'est tout.
Voilà. Il choisit les journalistes qui vont l'interviewer. Hein. Il les choisit, ils sont triés sur le
niveau de la compagnie, c'est tous les médias. Donc,
il faudra venir en débat, de toute façon. Et puis, ça sera animé, je pense, de façon d'une main de maître par Plume FM. Je crois qu'il faut le dire, quand même.
C'est ambitieux. L'accaparement des terres. Donc, il y aura comme invité Michel Tarin qui, lui, parlera aux gens présents ce jour-là de l'accaparement des terres ou confiscation de la nature. Il y aura Mamie Racoton-Drenib. Elle, c'est contre l'accaparement des terres malgaches. Ah, je l'ai dit d'un seul coup.
Ah oui, là, je suis impressionné.
J'ai des copains malgaches.
D'accord. Ah oui, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Et oui, donc, sur une histoire de D.U. qui a pris des terres. Enfin, c'est pas nouveau. Ça se répète, hein, puisque là, cette semaine, il y avait une histoire avec Michelin qui prend des terres en Inde. Et il y a des gens qui viennent d'Inde pour aller manifester à Clermont-Ferrand pour dire, attendez, vous êtes en train de prendre de la terre à des gens qui la cultivent et qui l'utilisent. Enfin, voilà, c'est terrible. Nous aussi, on est forcément l'accapareur de quelqu'un. Je veux dire, il ne faut pas seulement regarder les autres, il faut aussi se regarder soi-même.
Alors attends, il faut quand même relativiser, c'est que cet accaparement de terre, il est monstrueux.
Ah oui, oui.
C'est-à-dire qu'ils sont en train d'acheter des millions d'hectares dans tous les pays africains. C'est quelque chose de gigantesque. C'est un accaparement, c'est un vol, c'est quasiment un viol, quoi. Et ils sont en train de bouffer tous les pays qui n'ont pas les moyens autres pour déjà il y a les pots de vin, il y a tout ça. Enfin bon, c'est une horreur. J'en dirai pas plus.
Non mais si, parce que parfois on se demande si le débat, les échanges d'idées, les confrontations suffiront à inverser l'ordre des choses.
Hein? Déjà le fait d'informer.
Il y a la prise de conscience, c'est important.
C'est une révolution peut être spirituelle, là est la question. Hein. Les révolutions arabes, elles n'étaient pas spirituelles. Jacques Fontaine. Ah, on en revient à toi, René, aussi, là, la question de l'eau dans le conflit israélo-palestinien. Question qu'on mésestime souvent. Très importante, cette question de l'eau dans ce conflit.
Bien sûr, c'est un enjeu essentiel. C'est un des enjeux essentiels.
Alors, si ce n'est l'enjeu essentiel, presque.
Alors, non, quand même pas. Non, faut pas. Enfin, bon, c'est un des enjeux principaux, oui, bien sûr, oui. Voilà, parce que bon, je prends une minute peut-être pour détailler un petit peu, mais bon, Jacques Fontaine est donc chercheur en géographie et donc il a fait toute une étude justement sur le problème de l'eau là-bas et donc il va en parler. Mais bon, dans la question du conflit, il y a l'accaparement de l'eau, mais il y a aussi bien sûr l'accaparement de la terre, puisque un des slogans israéliens, c'est effectivement de posséder toute la terre sans les hommes, bien sûr, sans les Palestiniens. Hein, c'est ça, hein, on veut la terre, on veut pas les hommes. Voilà.
Donc c'est donc bon, Jacques Fontaine en parlera quoi dans sa conférence.
Ils espèrent en faire quoi des hommes?
Ah bah il faut qu'ils partent.
Il faut les virer, c'est tout.
Il faut les virer, voilà. On veut pas les chasser par la violence parce que évidemment ça serait. Mais c'est une enfin par la violence armée.
Oui. Est-ce que assoiffer les gens c'est pas une solution quelque part?
Mais en tout cas le but c'est de les chasser qui peut voilà de manière à ce que ou ceux qui resteront ce seront des sous-hommes. Voilà.
Oui.
Je vais pas en dire plus parce que ça mériterait une émission complète. Mais voilà. Mais bon.
On enchaîne avec le dernier thème parce que c'est vrai que le temps passe. Alors là, c'est le thème consacré au lobby. Alors, c'est une longue histoire aussi. D'ailleurs, il y a un documentaire de Jean Druon, Quelque chose de notre histoire. Tu peux nous en dire un mot, François? Non, tu peux
non,
pas.
Non, mais c'est pas grave.
On parle de libéralisation des télécommunications.
Ouais. On est sur la libéralisation, sur la suppression des services publics aussi. Et je fais le lien parce que comme j'aurais du mal à en parler complètement de ce documentaire parce que je l'ai pas vu. Je ferai lien aussi avec la conférence gesticulée que fera Thierry sur en fait la suppression des services publics le samedi soir. On est sur le système capitaliste qui est complètement en roue libre et on met en place des systèmes pour que eh bien on puisse plus l'arrêter. Donc j'avais bien dit que je pouvais pas en parler. Je cherche mes mots. Bon. Voilà.
Conférence gesticulée. Un dernier tango pour les services publics.
Ouais. Moi, je l'ai vu. Hein, Thierry, il a. Donc, c'était pas son métier. Hein, c'est pas son métier de faire des conférences gesticulées, de faire des spectacles. Alors, une conférence gesticulée, pour rappeler un peu ce que c'est, ça ressemble à une sorte de spectacle humoristique. Mais en réalité, c'est une vraie conférence avec du fond. Quoi. Là, il va aborder au travers d'un métaphore, c'est le tango. Alors, il explique qu'il a pris des cours de tango à cause de sa femme et que ça l'embêlait pas du tout et que finalement, il a fait connaissance avec le prof de tango qui était un Argentin et là il commence à parler de l'Argentine et tout ce qui s'est passé au niveau des services publics et il déroule ça et c'est monstrueux parce qu'il nous parle, on a parlé de Bouygues tout à l'heure, il nous parle de la privatisation, il nous parle de tous les engagements qu'avait fait Bouygues sur le fait d'avoir une télé de qualité,
le mieux disant culturel,
exactement, et c'est extraordinaire et il finit son spectacle et ça moi ça, je trouve que ça fait froid dans le dos, il finit son spectacle en énumérant tous les services publics qui ont disparu. Eh ben, c'est affolant. Qui se souvient encore que dans BNP, hein, Banque Nationale de Paris, le N c'est national, c'est-à-dire c'est une banque publique. On connaît EDF, la Poste, la SNCF, le CIC, la Caisse des dépôts. Il étale ça et ça dure des minutes. Il finit en partant en faisant cet étalage et c'est monstrueux quoi. Bon.
Je parle de l'école, un domaine que je connais. Tu sais que nous avons fait une émission il y a deux, trois mois. Vous voyez, je sais aussi que tu connais un peu la maison. On recevait deux femmes, une chef d'entreprise et une journaliste qui, parce que leur enfant était dans des classes surchargées, ont choisi de créer leur propre école, une école Montessori. Elle est à Baden. Donc ces deux femmes-là ont monté toute pièce cette école avec, j'allais dire dans l'esprit Montessori, certes, quelques parents d'élèves donc sont venus, pas n'importe quel parent d'élève, tu l'imagines bien. Il y a 15 gamins en maternelle, ils sont 9 en CPCE1. Il faut savoir que les frais de scolarité de cette école s'élèvent à 200 euros par mois pour scolariser ton enfant en maternelle. 200 euros par mois, c'est certainement l'avenir, enfin ce qui nous attend à terme. Voilà, chacun pourra construire son école. Mois, ouais, 200 euros par mois.
Faut quand même des moyens, mon derrière.
N'est-ce pas?
Il y a aussi à Serran une école du même genre. Privé.
Du même genre, je suis pas sûre quand même. Hein. Privé, oui.
Qui fonctionne avec une petite quantité d'enfants.
Sous contrat.
T'es au courant?
Si m'en avait parlé. Ouais, je veux bien que tu nous en reparles. Hein.
Privé sous contrat quand même.
Privé sous contrat, ouais.
Sous contrat.
Alors que,
Baden, non, je crois pas.
Non. Hors contrat. Et donc, ouais. Il s'agit pour eux de financer les salaires des enseignants.
Ouais.
D'où des frais de scolarité aussi élevés.
Bien sûr.
Bien évidemment.
Tu veux nous en dire un mot, Daniel? Je sens que ça t'émange.
C'est juste une école catholique intégriste qui a été montée par une ancienne professeure d'école privée.
Directrice d'école privée.
Et qui fonctionne toujours sur ses rangs avec une poignée d'élèves. J'ai personnellement été dans la classe. J'ai vu les crucifix et c'est formidable. C'est 40 ans en arrière, voire 50, voire 60. C'est formidable et on ne peut rien faire. On ne peut pas empêcher les gens de mettre leurs enfants là-dedans. C'est complètement abrutissant. Je trouve que c'est terrible d'avoir une chose comme ça près de chez soi, de rien pouvoir faire et de laisser les gens mettre en place des choses pareilles.
Sous contrat, c'est très étonnant.
Elle est instite, hein. C'est très étonnant. La responsable, la directrice, celle qui a monté le truc chez elle, dans sa maison. Elle était instite et elle est sous contrat.
Alors, on en revient au forum social. Hein. Vous avez nous sommes des spécialistes de la digression.
Oui, je vois bien. Je commence à m'inquiéter sur la table ronde, sur les médias. Mais bon, c'est pas grave.
Tout ira bien. Ce sera très préparé.
Et donc après, pour reboucler, c'est la table ronde sur les lobbies. Hein, donc oui. Où on parlera avec d'Enercop. Il y aura aussi, on parlera d'éoliennes, hein, puisque on peut voir sur le site, ça évolue. Hein, on met à jour quand même, parce que le papier, le prospectus, il fallait l'imprimer.
On rappelle l'adresse du site internet.
Ah oui, c'est une bonne idée. FSL56.org. Donc FSL, c'est pour Forum Social Local, donc ça va. Et 56, faut deviner, mais c'est le Morbihan. Et org, c'est parce que c'est pas commercial, c'est pas un .com. Donc voilà, c'est une organisation. Donc FSL56.org. Vous allez sur le prochain Forum Social et il y a le programme détaillé que vous pouvez imprimer. Vous pourrez aussi trouver de l'hébergement militant si vous habitez loin. En gros, vous êtes chômeur, vous habitez loin, et bien on vous propose toutes les solutions pour pouvoir participer. C'est-à-dire que il y a un clic et on va sur un site de covoiturage de la région, hein, donc un truc public. L'hébergement est fait par des militants, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas où coucher, ben il y a des militants qui prêtent, enfin qui voilà, c'est gratuit, ils prêtent leur chambre, etc. La bouffe, elle est prix libre, c'est une cantine Schmrutz qui vient de la région de Nantes et ils font de la culture bio. Ils viennent avec leurs produits, ils sont habitués à des festivals alternatifs ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils préparent les plats, les gens viennent avec leur assiette, le prix est libre, c'est-à-dire vous donnez ce que vous pouvez. Et puis ils sont en autofinancement total. Et la garderie est gratuite. Alors elle est gratuite, nous on la paye, hein, mais ça veut dire que derrière on va faire passer un chapeau. Donc c'est chacun en fonction de ses moyens et chacun aussi en fonction de ses besoins.
Est-ce que vous êtes subventionné?
Alors, c'est ça la grosse question.
Vous payez la garderie. Est-ce que vous avez des subventions pour organiser ce forum?
La question qu'on se pose des fois, c'est de dire est-ce qu'on accepte les subventions? Parce qu'accepter les subventions, c'est aussi être lié au cas où on n'a plus ces subventions. On a parlé d'indépendance des médias, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on a comme subventions, elles sont parce que tout est règle, hein, tout est public, voilà. C'est les locaux. Les locaux sont prêtés par la mairie de Séné. C'est-à-dire qu'on ne paye pas l'utilisation des locaux. Quand c'est au Palais des Arts à Vannes, c'est pareil, on ne paye pas parce que ATTAC est une association de Vannes, donc on a la possibilité d'utiliser une fois par an des locaux. Ce qu'on paye, c'est les UT. Les UT, c'est payant. Les prospectus, alors là, c'est effectivement une subvention de la mairie de Séné qui paye l'aspect com, donc le papier. Et puis pour le reste, les billets d'avion, tout ça, on doit les payer, hein, donc c'est pour ça qu'on fait payer le chapeau. En revanche, les intervenants viennent gracieusement, c'est-à-dire que ils viennent de loin, hein. Il y a des gens qui viennent, Gus Macias, tout ça, on en a parlé, il y a tous des pointures qui sont des gens qui sont la plupart connus de façon internationale, Jacques Fontaine, ces gens viennent, Michel Desmurger qui est chercheur, alors je sais plus de quel côté, de Lyon ou je sais plus trop, ces gens-là viennent sur leur temps personnel pour faire des conférences. Voilà, donc on se débrouille, c'est vraiment du bénévolat. Et les gens qui sont derrière font ça gratuitement, c'est-à-dire les bénévoles qu'organisent, moi je me fais pas payer, René non plus. Alors la boisson, elle est quand même payante, hein. Le café de la Pente vient, mais si vous voulez de l'alcool, c'est payant. En revanche, le café de la Pente, la dernière fois, nous a dit la recette c'est pour vous. C'est-à-dire, il paye la matière première, mais après, voilà. Donc c'est un autofinancement total.
Est-ce qu'on peut toujours apporter son unité centrale au forum social local?
Avec raison, parce que qu'est-ce que c'est bête quand même d'acheter un matériel et de payer l'homme le plus riche du monde, enfin maintenant il est en retraite, mais tout ce qui est Microsoft, etc., ou Apple, vous pouvez venir au forum social avec votre machine, vous faire rembourser auprès de votre magasin en disant non, je ne veux pas le logiciel que vous m'imposez en vente forcée, ils sont tenus de vous rembourser et vous vous engagez à resupprimer le système d'exploitation Windows, la suite bureautique, Office, etc. Ok, vous l'avez pu. Vous venez ensuite au forum social et là, on vous installe du Linux, de la suite bureautique LibreOffice. Je vous rassure, ça marche exactement comme les autres. Hein. Même souvent, ça marche mieux parce que dans les trucs privés, ils sont obligés de mettre des petits problèmes de temps en temps parce que sinon, vous n'allez pas les revoir. Donc voilà, il y a des changements de version, c'est pas compatible, etc. Dans le libre, c'est tout compatible. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous envoie par mail un document Microsoft ou autre, vous savez le lire avec LibreOffice, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage quelconque.
Ce qui n'est pas valable dans l'autre sens.
Dans l'autre sens, c'est pas toujours valable. Non, quand vous écrivez un logiciel dans le domaine libre, évidemment, les systèmes privés, il y a des lecteurs, mais il faut installer. Mais ceci dit, on peut installer sur un système Windows, on peut installer LibreOffice, on peut installer des choses comme ça.
C'était incroyable le deuil mondial qui a suivi la mort de Steve Jobs.
Oui, hein, c'est terrible. Alors que
la même semaine,
il y avait Ritchie qui est l'inventeur de d'Unix, un bienfaiteur de l'humanité qui ensuite a donné Linux, etc. Donc un type qui a inventé un système d'exploitation gratuit dans les universités américaines. Ce type-là est mort le même jour. Lui a fait un système qui maintenant est utilisé quasiment par tout le monde, y compris par Apple, parce que maintenant le noyau d'Apple, c'est un système Linux. Donc Ritchie a développé le système d'exploitation de Mac, et finalement celui qu'on met au nu, c'est celui qui s'est fait du fric. C'est quand même curieux.
Un autre monde est possible.
Exactement.
Eh ben, merci à vous, l'oreille enchantée. Ça va durer le 27, 28, 29 janvier 2012. Ça se passe essentiellement à Séné, dans plusieurs salles.
Oui. Oui, tout à fait, en parallèle. On peut le regretter, mais c'est un choix aussi de pouvoir donner le choix en fait aux gens de pouvoir faire leur marché.
Une quarantaine d'associations y seront présentes. Tous les renseignements sur le http://fsl56.org. On peut appeler aussi, hein. Le 0688 80, c'est ton numéro, ça?
Thierry.
Non, c'est celui de Thierry.
Mais c'est pas grave, il est sur le site. Si les gens veulent voir.
Vous pourrez voir des films, assister à des débats et des conférences. Vous êtes les bienvenus. Boisson à volonté, si vous me comprenez.
Vous dites pas que c'est de ma part.
Merci René, merci François d'avoir accepté notre invitation. Et puis à bientôt, hein, on se retrouve là-bas. Merci Anthony pour la technique.
Pourquoi être mort si j'étais né? Si j'étais pas né, j'en serais encore à me demander. C'est pas mon consort si j'étais né. J'aurais bien aimé m'envoler, j'ai pointé d'or le bout du nez, je venais d'éclore, ça y est, j'étais né, j'ai couru alors, sans regarder, le sud ou le nord, j'étais né, si j'étais né. J'aurais bien aimé du doigt le toucher. C'est fragile l'extension de tes bras. C'est fragile les cordes de ta voix. C'est fragile le tissu de nos peaux. C'est fragile le courant de nos os. C'est fragile quand tu ne dis qu'un mot. C'est fragile les ailes des oiseaux. C'est fragile, on n'est rien qu'une fois. C'est fragile, ça claque entre les doigts. J'ai compté les morts et ça m'a donné l'envers des décors. Alors je suis né. Si je suis pas né, je cours encore sans me retourner à la vie, à la mort. Si je suis né, j'aurais bien aimé pouvoir y goûter. J'ai craché mon corps sur la chaussée. Pourquoi je suis mort si je suis né?
je suis encore, je m'en suis allé. Comme je suis mort, eh bien je suis né. Si je suis né, j'aurais bien aimé oublier. C'est fragile, l'extension de tes bras. C'est fragile, les cordes de ta voix. C'est fragile, le tissu de nos peaux. C'est fragile, le courant de nos eaux. C'est fragile, quand tu ne dis qu'un mot. C'est fragile, les ailes des oiseaux. C'est fragile, on n'est rien qu'une fois. C'est fragile, ça claque entre les doigts.
La grand-messe s'est terminée pour aujourd'hui. C'était donc première diffusion le mercredi à 20h et rediffusion le dimanche à midi. On se retrouve donc les 27, 28 et 29 janvier au Forum Social Local. C'est à Séné, un site internet fsl56.org. Autour de la Sainte Table de Plume FM, il y avait Mathieu Lausanne à l'animation, Daniel et Pascal accompagnés de Julia, et les invités étaient François et René qui organisent aussi le Forum Social Local.
On n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Tout est bidon.
C'est vrai qu'on a parfois tendance à caricaturer.
C'est pas vrai.
Si, à tout prendre, je préfère l'excès de caricature à l'excès de censure.
Quand la protection de l'enfance coïncide avec la crise du personnel, il faut plus comprendre, il faut prier.
Tout est bidon.